tous et bienvenue sur Radio Grand Ciel. Ici Nathalie Garraud dans l'émission Un chemin pour s'épanouir. Bonjour Émilie.
Bonjour Nathalie, j'espère que tu vas bien et que cette fois tu as réussi à résoudre le fameux problème de la page blanche dont tu nous parlais la dernière fois.
Ben oui, justement aujourd'hui je voudrais vous parler de ce qui me permet d'avancer dans la vie la plupart du temps et dont j'ai parlé également pour ma fameuse page blanche, c'est-à-dire la confiance.
Et tu nous expliquais que la confiance nous permettait souvent d'éviter la peur, c'est ça ?
Ben, en fait, dans la vie, on a déjà parlé de nos pensées limitantes dans les émissions précédentes, c'est-à-dire de tout ce qui nous bloque, et donc effectivement de la peur. Et l'antidote qui peut vraiment nous aider, c'est effectivement la conscience, parce que la confiance, ça peut être décliné de différentes façons. Ça peut être la confiance en soi, la confiance tout court, dans les gens, la confiance dans la vie, la confiance aux amis qu'on a. En fait, c'est ce qui nous permet de prendre des forces parce qu'on se sent soutenu. Ou la confiance en Dieu aussi, qu'on peut appeler la foi aussi. Enfin, la confiance, c'est vraiment un océan et on peut y mettre toutes sortes d'embarcations dessus.
Alors, tu as partagé avec nous plusieurs types d'épreuves dans les différentes émissions passées. Et effectivement, on pouvait voir que cette confiance, c'était un peu un fil rouge pour toi dans ta vie.
En fait, la confiance, effectivement, pour moi, c'est une ressource énorme parce que notamment, elle peut permettre le lâcher prise. Donc, autant on a les pensées limitantes qui nous bloquent et autant la confiance, c'est à l'opposé des pensées limitantes. Et ça peut nous permettre d'être un moteur extraordinaire dans notre vie. C'est-à-dire que quand tu as confiance, la peur ne peut plus t'étrangler. Et donc, tu peux lâcher les fardeaux qui te pèsent. La peur, si tu veux, ça te fait porter la plupart du temps une armure, un glaive, un casque, un bouclier. Et la confiance, au contraire, ça t'allège. Tu marches librement au grand air, si tu veux.
Alors, tu sais, je te demande souvent si tu peux illustrer tout ça avec des exemples. Et tu as toujours des exemples pour nous, Nathalie.
Effectivement. Alors, j'en ai peut-être un qui sera plus parlant que les autres. Alors, je ne sais plus si j'en ai parlé au fil des émissions depuis le temps. Mais ma dernière fille peut perdre ses reins à n'importe quel moment. C'est-à-dire qu'à 7 mois de grossesse, on m'a dit, madame, IVG... Donc, là, j'étais complètement choquée.
7 mois de grossesse.
7 mois de grossesse. Okay. Le bébé, il a eu le temps de pousser. Tu as un bidon, et voilà. Tu as 2 petites filles qui attendent un bébé, parce que voilà. Et donc, j'étais choquée. Enfin, c'est pas n'importe quoi. Et pour moi, c'était complètement impossible. Parce qu'il y avait ce petit être qui vivait en moi, qui tapait dans mon ventre, qui bougeait, qui me faisait des coucous. Pour moi, c'était impossible de tuer cet enfant. Si tu veux, la naissance de ma première fille, on m'avait déjà dit, madame, IVG, là, ce coup-ci, c'était pour risque de trisomie. Et c'était à 3 mois de grossesse. Donc, à ce moment-là, le bébé bougeait pas. Enfin, je le sentais pas, à part évidemment que j'avais la taille un petit peu moins mince que d'habitude. Mais si tu veux, déjà même pour ma première fille, j'ai eu un réflexe de tigresse. J'ai mes mains qui sont jetées sur mon ventre. Pour moi, c'était « vous ne toucherez pas à mon enfant ». Je ne savais absolument pas si je serais capable d'élever un enfant trisomique. Mais je savais que j'étais incapable de tuer mon bébé. Et là aussi, c'était dur. Tu sais, tu plonges dans le vide et c'est la confiance qui a sous-tendu mes pas en avant. Tu ne sais pas où tu vas, mais tu y vas parce qu'il faut avancer et voilà quoi.
Alors, tu nous parles souvent en ce moment de ne pas savoir où on va, mais d'avancer quand même.
C'est effectivement, tu as raison, parce que pour en revenir à Emeline, donc ma petite dernière, quand tu as 7 mois de maternité, on dit il faut faire passer l'enfant, c'est quand même un choc terrible. Ils te mettent des mots qui ne veulent rien dire, mais derrière, tu sais ce que ça veut dire, quoi. Évidemment, je ne savais pas quoi faire. J'étais complètement perdue. Je savais juste que cet enfant est vivant et je ne le tuerai pas. Dans cette situation, si tu n'as pas un minimum de confiance dans la vie, je pense que c'est vraiment le burn-out. C'est la descente vers la folie, quelque chose qui pèse sur ta tête et dans ton cœur. Mais là, si je n'avais pas le choix. En fait, quand je dis ça, je me rends compte, j'ai horreur de ce mot-là. J'ai fait le choix. J'avais une petite fille de 2 ans, une autre de 4 ans. Et je devais tenir le choc. Je ne pouvais pas abandonner. Il y avait ce petit être en moi qui ne demandait qu'à prendre vie. Et j'ai toujours tout fait pour protéger mes enfants. Je n'allais pas arrêter ce jour-là.
Alors effectivement, ça doit être un poids énorme sur les épaules. Comment tu as fait pour surmonter cette situation ?
Tu vois, il y a une image que j'aime bien. C'est l'histoire d'un homme qui se retourne sur le chemin de sa vie et qui voit toujours de traces sur le chemin. Donc, en fait, c'est Dieu qui chemine à côté de lui. Et puis, en regardant de plus près, il constate qu'à plusieurs moments de sa vie, En fait, il n'y a plus qu'une seule trace de pied dans le sable et que c'est les moments les pires de sa vie. Du coup, il est plein de colère et il s'écrie contre Dieu « Mais pourquoi tu m'as abandonné au moment les plus terribles de ma vie ?»
Qu'est-ce qu'il a comme réponse ?
Ben, la réponse, je la trouve très belle, c'est que Dieu a répondu « Et dans ce moment-là, je te portais sur mes épaules. » Donc en fait, la seule trace de pied, c'était celle de Dieu. Et en fait, je trouve que cette réponse est d'autant plus émouvante parce que je suis convaincue que Dieu, les anges, les elfes, enfin qui on veut, sont effectivement là pour nous épauler dans les moments d'épreuve. Alors, il y a des gens qui me diront que je suis folle d'avoir des pensées comme ça, et peut-être pas, mais je m'en fiche de toute façon. Moi, ce qui compte, c'est de savoir ce qui est vrai pour moi, vrai ou pas vrai, la vérité, chacun a la sienne. Et cette croyance, c'est cette croyance qui me permet de tenir debout. Et le simple fait de croire que c'est vrai, ça me donne des forces.
En fait, on pourrait dire que cette croyance, comme tu dis, est une croyance de confiance et te donne ses forces. Tu disais tout à l'heure, c'est l'opposé d'une pensée limitante.
En fait, c'est ce que je pense. Comme je disais tout à l'heure, la confiance, elle peut être dans n'importe quel domaine. Que ce soit la confiance en soi, la confiance dans les autres, la confiance en Dieu, la confiance en la vie. Enfin, si tu veux, quel que soit le support de la confiance, pour moi, la confiance nous donne des forces.
Et c'est cette confiance en la vie, si on peut l'appeler comme ça, qui t'a permis de garder cet enfant et de tenir le coup ?
Ouais, carrément. Et en fait... Comme je te le disais, je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Donc, la page blanche, là, pour le coup, enfin, voilà, on retourne à l'émission de le mois dernier. Je suis fatiguée, pardon. Et mon enfant est né à Necker, c'est-à-dire à 80 km de chez moi, alors que ma famille la plus proche est à 250 km de mon domicile. J'avais deux enfants en bas âge, c'était vraiment compliqué. Avant la naissance, j'avais un suivi médical tous les deux jours chez ma gynéco, des échographies toutes les semaines, avec bien sûr, en parallèle, ces deux petites filles, celle de 4 ans qui allait à l'école, une autre de 2 ans pleine d'énergie qui dormait pas, qui bougeait toute la journée. Enfin, j'avais pas un instant de repos, pas de répit. Je devais faire front de tous les côtés et aussi pour mes deux enfants déjà nés, pour les préparer à accueillir une petite sœur et pas un enfant malade, pour conserver leur propre équilibre, parce que ne pas trahir leur force, elles aussi, elles avaient besoin de leur maman. Et je voulais pas semer la peur en elles, mais justement l'amour pour cette petite fille qui aurait besoin d'être accompagnée et choyée. Et c'était très difficile de pas montrer ma peur. Et parce que quelle qu'elle soit, la confiance, si tu veux, oui, carrément, j'avais peur. J'avais peur de perdre mon enfant à la naissance, j'avais peur qu'il lui arrive du mal, j'avais peur de la vie qui l'attendait. Et quand je faisais ma prière le soir, j'arrivais pas à dire le Notre Père sans sangloter. Moi, je suppliais juste Dieu de donner vie à mon enfant. Et dans la mesure du possible, une bonne santé. Et tu vois, quand à l'échographie, tu as 9 médecins autour de toi, c'est Necker quand même, qui t'observe sous tous les angles, qui dit « oui, je vois un trou, deux trous, trois trous », sans prendre du tout en considération le fait que j'entends tout ce qui se dit. Du coup, qu'est-ce que je comprends ? Je comprends après qu'il parle des orifices naturels et je découvre que ma fille aurait pu ne pas avoir de vagin, par exemple. Donc, ne pas enfanter. Donc, c'est une véritable torture morale. Et moi qui aime tant les enfants, j'avais la tête qui explosait à l'idée de penser que ma fille aurait pu ne pas pouvoir enfanter. Et pourtant, cette souffrance concerne vraiment des quantités de femmes qui courageusement font face, qui arrivent à tenir debout. Et j'ai vraiment beaucoup de respect et d'admiration pour ces femmes. Alors bien sûr, tout le monde ne veut pas d'enfants. Je veux dire, il ne faut pas rentrer dans les schémas. Mais quand une femme désire un enfant et qu'elle ne peut pas en avoir, je sais que c'est une épreuve vraiment lourde.
Effectivement, et c'est vrai que ça attire la compassion de tous, puisque la femme, par nature, est celle qui est destinée à enfanter. Il y a également toutes les épreuves que chacun d'entre nous peut avoir à affronter, et justement cette peur dont tu parles, cette confiance qui est nécessaire, savoir qu'un mieux nous attend, car chaque pas en avant nous conduira vers des moments plus légers. Cette confiance, eh bien, comment on fait pour l'avoir ?
Écoute, je sais pas te dire exactement, à part avoir des pensées positives.
Dans ta situation, si on revient à ton exemple, pour poursuivre ton histoire, comment tu as fait ?
Alors, moi, au niveau de la confiance, je pense que c'est ma foi en Dieu, ma foi en la vie. Le fait, même toute petite, tu sais, de me raccrocher aux nuages, chaque fois qu'il y avait quelque chose de trop lourd, j'essayais de m'évader. La confiance, si tu veux, ça n'empêche pas l'épreuve, et l'épreuve est dure à affronter. Mais par exemple, pour revenir à ma fille, après la naissance de ma fille, je suis restée 10 jours à l'hôpital en attendant de savoir ce qui allait se passer. C'est-à-dire que j'avais des escarres tellement je restais dans mon lit à attendre le chirurgien et tellement j'étais oppressée de ne pas savoir ce qui allait arriver, ni même comment ça se passait pour ma fille. Tu vois, je pleurais beaucoup alors que je venais de donner la vie, et c'est le moment le plus magique du monde de... Donc, je calmais mes larmes pour tenir mon bébé dans mes bras, la cajoler, la câliner, la protéger. Tu me demandes comment j'ai fait. J'ai essayé de me raccrocher à tout ce qui pouvait me donner des forces. Elle était si belle, elle était souriante. Et malgré tout ce qu'on lui faisait, elle avait les mains noires à force d'avoir des piqûres et les veines qui claquent. Elle avait la peau arrachée à force d'avoir des poches urinaires qu'on lui collait sur une peau déjà irritée pour l'arracher encore, en remettre une autre, encore, encore. Elle était tripotée dans tous les sens. Elle passait de main en main, de service en service. Et malgré tout, elle gardait le sourire.
Alors, ce que tu décris, je préviens peut-être un peu nos auditeurs sensibles, parce que c'est vrai que tu nous donnes une parole de vérité qui est pas facile à entendre, là, ce que tu décris, cette réalité d'un enfant malade. Mais justement, c'est une réalité, ça nous permet de peut-être d'accéder à ces situations qu'on ne connaît pas tous. Ça nous permet aussi d'être en empathie avec tous ces gens qui sont confrontés à ces procédures médicales sur des enfants. Alors, tu disais qu'elle gardait le sourire. Elle a de qui tenir.
Ben en fait, tout le monde me dit que... Je sais que je souris, mais... en fait, je le vois pas parce que je me regarde pas dans la glace, mais effectivement, je pense que le sourire est une force et qui nous aide à avancer. Et peut-être que le sourire, c'est simplement le visage de la confiance. Tu vois, dans l'Évangile, on nous parle du ravi, dans les Santons de Provence aussi. Et le ravi, est-ce que c'est pas celui qui sourit tout le temps à la vie? Est-ce que c'est pas celui qui fait totalement confiance?
Alors en fait, le sourire, tu nous le décris comme un manteau en fait pour la confiance. Pour en revenir à cet exemple qui est douloureux, pour ta fille, comment est-ce que ça s'est passé?
J'ai dû surveiller chaque jour de sa croissance parce que les médecins me disaient qu'elle pouvait perdre ses reins à n'importe quel moment, les deux reins. Donc il fallait vraiment surveiller la moindre fièvre. Elle était sous antibiotiques tous les jours de sa naissance jusqu'au moment où elle portait pas de couche. Alors ça, c'était assez violent parce que pour moi, c'était très dur de lui administrer chaque jour sa dose d'antibiotiques. Oui. C'était en plus au moment de la grande période, la campagne médicale qui nous répétait, mais tous les jours en boucle H24, les antibiotiques, c'est pas automatique.
Oui, donc quand toi, t'es dans cette situation.
Et moi, tous les jours, j'empoisonnais ma fille pour moi, tu vois.
T'avais cette impression, en tout cas, bien sûr.
Oui, c'était par rapport à ce qu'on entendait.
Bien sûr.
Et par contre, c'était le seul moyen de la garder en vie. Donc, j'avais cette sensation de l'empoisonner, mais que c'était le seul moyen de la garder en vie. Donc, à 18 mois, elle a fait une résistance aux antibiotiques. Donc, elle a fait une pyélonéphrite, c'est-à-dire une infection grave, donc directement aux urgences, mais tout en gérant en parallèle les deux enfants, l'équilibre de mes deux petites, donc à l'époque, elles avaient 5 ans et demi et 7 ans, quelque chose comme ça. Donc, tu sais, là, c'est SOS maman, t'appelles toutes les copines, les voisines, etc. Donc, parce que j'étais deux autres enfants, il faut leur garder un équilibre. Mais par contre, mon bébé, c'est lui qui avait besoin de moi de façon vitale. Donc, elle a eu des injections massives d'antibiotiques par voie intraveineuse. Ça durait pendant 2 heures. Les veines claquaient. Il lui repiquait dans une autre veine qui reclaquait. Il fallait pas qu'elle bouge, etc. Un bébé 18 mois qui ne doit pas bouger. Un enfant, c'est la vie, elle gigote. Et puis, elle ne comprenait pas pourquoi elle était maintenue comme ça. Et donc, moi, il fallait que je la rassure, que je lui redonne confiance, justement, pour l'apaiser, pour l'aider à traverser cette épreuve le plus sereinement possible et dire, tu peux avoir confiance, maman est là.
Et encore une fois, tu nous fais accéder à une réalité qui est vraiment difficile à entendre. Alors, ce que tu nous dis, c'est que cette confiance que tu avais, toi, finalement, tu l'as transmise à ta fille?
J'espère. J'espère que mes enfants savent qu'ils peuvent compter sur moi tout le temps. Et tu vois, à l'époque, j'en avais pas pris confiance, mais c'est vrai que la confiance fait des petits.
Bien sûr.
Et la confiance, c'est aussi sur tous les amis sur lesquels tu peux compter, les gens à qui tu peux te confier, par exemple, quand tu te sens perdu. Il y a tellement de déclinaisons dans notre vie qu'on oublie bien souvent... que tout ce qu'on a par cette émission, j'espère que ça pourra donner des forces justement à nos auditeurs en leur rappelant cette force magnifique que la confiance peut nous apporter. Garder confiance dans toutes les épreuves, garder confiance.
Alors, effectivement, le quotidien peut avoir ses diverses épreuves. Là, tu nous as décrit quand même une épreuve qui était particulièrement difficile, on l'imagine bien. Savoir reprendre des forces, c'est utile. Tu nous en parlais d'ailleurs à la rentrée.
Oui, et si on veut faire un parallèle, justement, la confiance, c'est le souffle qui nous manque parfois pour tenir la distance dans les épreuves. On a vu l'inspire, l'expire en septembre, ça c'est physique. La confiance, c'est immatériel, c'est à l'intérieur de nous. Mais c'est une force ô combien précieuse. Et tu vois, dans mes pensées positives, si je peux les appeler ainsi, c'est-à-dire celles qui ne sont pas limitantes, y a celle selon laquelle on récolte ce qu'on sème. Eh bien, ça, c'est de la confiance, si tu veux. Toute la nature illustre cette loi naturelle. Est-ce que le chêne, il sème un gland pour... Enfin, tu vois. Mm-hmm. Et d'ailleurs, excuse-moi, je fais un parallèle, une bifurcation, je ne sais pas comment on dit. Olivier Clerc, que j'aime bien citer, l'a justement illustré cette semaine dans sa métaphore hebdomadaire pour les gens qui s'abonnent à sa newsletter. Et pour moi, c'est ma vérité. Si on a semé du bon grain, on récoltera du grain. Si on sème des orties, on récolte des orties, et ainsi de suite. Et parfois, les gens peuvent penser « Oui, mais des fois, ça ne pousse pas. » Bah, pour moi, la sœur de la confiance, c'est aussi la patience.
Alors là, on aborde une autre notion. Qu'est-ce que tu entends par là ?
Bah, tu sais, quelquefois, tu te dis « C'est fichu, ça ne pousse pas. » Et effectivement, des fois, la graine ne germe pas. Mais quelquefois, elle germera l'année suivante. Mais aussi, d'où l'importance de ne pas être radin quand tu sèmes, pour avoir plus de chances de récolter. Dans l'Évangile, on dit il y a le vent, il y a la pierre, etc. Je renvoie les auditeurs à l'Évangile, si ça les intéresse. Et après, il y a le bon champ. Mais ce que je veux dire, c'est que parfois, il faut aussi laisser le temps au temps. Parce que même dans la pierre, t'as combien de plantes qui poussent, mais plus tard. Mmh. Et puis, après, il y a la question de quelle plante. Une fleur pousse plus vite qu'un arbuste. Un arbuste pousse plus vite qu'un arbre, etc. Tu vois, le mois dernier, on disait, en parlant de Candy Crush, par exemple, qu'il y a des moments où il ne faut rien toucher. Et il faut laisser les choses se faire pour que tout soit dans le bon ordre. Bah, la patience, c'est ça aussi. Certaines choses peuvent prendre du temps pour mieux grandir. Comme on disait, la différence entre la fleur, l'arbuste, l'arbre. Dans la vie, c'est pareil. Si tu veux, Olivier Clerc, dans sa métaphore, il souligne que non seulement on récolte ce qu'on sème, mais également qu'on récolte de façon démultipliée. Un grain de blé donne un épi, un gland donne un chêne qui donnera des milliers de glands.
Alors du coup, ça veut dire aussi qu'il faut être vigilant, bien sûr, à ce que l'on sème, pour reprendre ta métaphore, que ce soit en pensée, en parole et bien sûr en acte.
En tout cas, très clairement, moi, c'est ce que je pense. C'est quelque chose d'assez connu. Mais enfin, chacun pense ce qu'il veut. Pour ma part...
C'est-à-dire que c'est connu, mais on ne l'applique pas forcément.
Clairement, tout le monde sait que si tu sèmes des graines, il y a des fleurs qui vont pousser plus ou moins. Par contre, qui a fait le parallèle dans sa vie ? Mes paroles, je sème quelque chose. Ouais. Qu'est-ce que j'engendre par ça ? Mes actes, je sème quelque chose. Qu'est-ce que j'engendre ? Et qu'est-ce que je vais récolter ? La prise de conscience n'est pas forcément unanime.
Souvent, elle est malheureusement un peu tardive.
C'est pour ça que si on peut essayer d'y réfléchir avant, c'est pas plus mal.
Mais il n'est jamais trop tard, je le précise.
Mais en tout cas, moi, clairement, je sais que... Je suis convaincue que ce que je sème, je vais récolter. J'ai à cœur de semer du propre, du beau, du bon. J'ai une éthique parce que je sais que je vais récolter et j'ai pas envie de récolter des orties. Si tu veux, il y a déjà assez de ronces dans la vie sur les chemins qu'on peut avoir à traverser. C'est-à-dire, c'est pas ce qu'on a semé, mais c'est le chemin par lequel on doit passer. C'est peut-être pas la peine de semer des cochonneries dans son jardin, si tu veux. Moi, je rêve d'un havre de paix, de calme, pas d'agression, pas de cris, juste être détendu et en sécurité. Donc, du coup, j'axe tous mes efforts en ce sens et je sème. Je sème de la douceur, je sème de la gentillesse, je sème de la compassion, je sème de la bienveillance. Et je sais que la récolte va arriver. Alors, si tu veux, je bine mon jardin, j'arrose, je désherbe, mon jardin, ma vie, quoi. Et je patiente que la vie fasse ce qu'elle doit faire parce que moi, de mon côté, Ben, je fais ce que je pense avoir à faire, si tu veux. Ça rejoint un peu le quatrième accord Toltec.
Alors, pour les gens qui ne sont pas familiers avec cette expression, c'est issu d'un livre, c'est ça ?
Oui, de Don Miguel Ruiz, Les quatre accords Toltec. Et donc, en fait, c'est un livre qui est assez tout petit, mais c'est très intéressant à étudier et assez dense à mettre en application. Parce que tu te rappelles, le mois dernier, on disait « savoir ne suffit pas, il faut agir ouais. ». Et donc, le quatrième accord Toltec nous enjoint de faire toujours de notre mieux. Et je trouve que ça encourage à la confiance, parce que si on a fait de son mieux, on a fait son maximum, on ne peut pas faire plus. Et donc, il faut faire confiance à la vie que ce qui doit être sera, que c'est ainsi, que tout est bien. Quelquefois, ce n'est pas facile à vivre dans l'épreuve. Et que simplement, ce qu'on vit, c'est l'expérience dont on a besoin aujourd'hui pour évoluer sur notre chemin de vie.
Et comme tu le dis, c'est pas toujours simple, ça dépend des situations, mais parfois on n'arrive pas à trouver cette confiance quand on est vraiment dans une période difficile.
Ah ben clairement, si tu veux, moi quand j'en parle, je me convainc moi-même chaque jour pour tenir le cap. Là, en ce moment, je traverse des déserts vraiment arides. Garder confiance que l'oasis où je pourrais m'abreuver, reprendre des forces approche, clairement, c'est pas toujours facile. Rester aligné avec son cœur, ne pas répondre aux provocations, aux calomnies, non, c'est pas facile. Et des fois, on voudrait juste avoir le droit d'être humain, l'humain avec ses limites, qui lâche tout ce qu'il a sur le cœur.
Ça peut se comprendre. En même temps, ça revient à ce que tu disais sur semer en pensée, en parole et en acte. Ce qui nous retient, c'est aussi ça. Et le discernement.
Et puis après, faire de son mieux en fonction des forces qu'on a aussi. Et tu vois, pour donner un autre exemple de la confiance, j'ai ma Benjamine qui continue mon initiation culturelle. Et elle a terminé là de me faire voir les films de Harry Potter. Et samedi dernier, on était sur Harry Potter 6. Et c'est un moment où Dumbledore dit à Harry de lui faire confiance et de lui faire boire jusqu'à la fin l'eau magique, quoi qu'il lui dise ensuite pendant l'épreuve.
Oui, une scène très tendue du film.
Voilà. Ouais. Donc, on voit déjà l'importance de la confiance, parce que, bien sûr, la peur est là. Et pendant que Dumbledore boit l'eau et au cours de l'épreuve provoquée demande à Harry d'arrêter, c'est vraiment compliqué pour Harry. Qu'est-ce qu'il doit faire ? Il doit obéir aux instructions initiales ou écouter son professeur qui lui dit d'arrêter à l'instant T ? Il doit écouter la confiance qu'il a en son professeur qui lui a donné ses instructions, ou est-ce qu'il doit écouter la peur de lui faire mal et suivre les instructions du moment où il lui dit d'arrêter, de lui donner de l'eau à boire ? Dans la vie, c'est pareil. La confiance peut être inconfortable. C'est pas simple d'écouter sa foi, sa confiance en la vie, sa confiance en Dieu. Quand je dis je sais pas où je vais par rapport à mes enfants ou d'autres choses, c'est pas simple. Avoir confiance, non, c'est pas évident. Mais avoir confiance en nos amis pour ne pas entendre sa peur, garder le cap, se dire qu'on va y arriver, qu'il faut réussir à traverser ce moment d'inconfort, c'est pas simple.
Et est-ce que ça rejoint un petit peu la question de la persévérance dont tu nous as parlé ? Cette fois, c'était la saison dernière.
Oui, je pense, parce que grâce à la persévérance, la confiance peut persister. C'est-à-dire que lutter contre la peur qui cherche à nous faire perdre pied. Et là, je reviens aussi à la notion de garder des forces, parce que quand tu n'as pas de force, tu n'y arrives plus. Peur, elle nous submerge. Et surtout quand tu as des personnes en plus qui cherchent à actionner tes peurs pour te garder sous leur contrôle, qui savent très bien quel bouton il faut appuyer pour te mettre en panique ou sous emprise, comme on dit.
Soit des gens qui le savent très bien, soit des gens qui involontairement, parce que ça arrive aussi, vont
générer tes peurs. Enfin, ça en fait, si tu veux, c'est tout un mix de ce qu'on a étudié l'an dernier qui entre en jeu. Enfin, le courage d'agir, la persévérance, savoir entretenir sa force pour continuer d'avancer justement grâce à la persévérance, le non-jugement pour ne pas perdre ni son temps ni son énergie en étant tiré vers le bas, le pardon pour alléger notre quotidien de tous ces poids en fait qui nous kidnappent, qui nous pèsent, qui nous étouffent selon le cas. Si on laisse la rancœur, le désir de vengeance, la soif de justice prendre le pas sur simplement l'objectif qu'on s'est fixé.
Alors je dirais peut-être la soif de revanche, parce que la justice est quand même toujours quelque chose à rechercher. Mmh. Alors la confiance, c'est quelque part une question de... un terme que tu utilises souvent, de focus, pour se raccrocher. Est-ce que tu pourrais peut-être nous reparler de cette notion de focus ?
Ben, si tu veux, dans la mesure où la confiance nous aide à conserver en mémoire l'objectif qu'on s'est fixé, oui, se raccrocher à la confiance nous aide à garder des forces. Et même au contraire, je dirais plutôt que c'est même pas se raccrocher à la confiance, mais c'est se baigner dedans. Parce que c'est justement lâcher tout effort de volonté qui nous prend des forces pour se laisser porter par cette confiance. C'est pas obéir aveuglement. Mais c'est se fier à nos pensées constructives, enfin, je ne sais pas comment on les appelle, enfin, c'est le mot qu'on donne, que je donne là, à l'inverse des pensées limitantes, si tu veux. Par exemple, je suis convaincue qu'une des lois naturelles est qu'on récolte ce qu'on sème, comme on a dit, et des fois on se dit, mais pourquoi je suis dans une telle galère alors que j'ai tout fait pour semer du beau ? Ben, je pense que dans ces cas-là, il faut vraiment se baigner dans la confiance et patienter. Le lâcher prise est vraiment précieux dans ces moments-là, car sinon on aurait affaire aux détraqueurs de Harry Potter, ces êtres qui se nourrissent de tes peurs. Si tu veux, par rapport à ça, se baigner dans la confiance, c'est faire confiance aussi à la vie que on ne sait pas tout. Et ce qu'on ne sait pas, par exemple, que cette épreuve, j'avais déjà parlé, je pense, de la phrase que j'aime, « le feu forge ou brûle ». C'est peut-être juste que la vie est en train de me faire devenir une magnifique balustrade de fer forgé.
Alors, je vais peut-être un tout petit peu nuancer, là, en faisant peut-être appel à davantage à mon expérience personnelle. C'est vrai, cette question, quand on dit « j'ai essayé de semer des belles choses et puis je ne récolte pas ça », moi, je sais que dans ma vie, ça a aussi pu être des moments où je me suis dit « mais est-ce que vraiment j'ai semé que des belles choses ?» Et parfois, ça n'a pas été le cas. Donc, une introspection...
Mais c'est ce qu'on disait, on fait de son mieux et exactement. On n'est pas parfait et on est humain. Et donc, on peut clairement, enfin, en tout cas, personnellement, j'essaye de ne pas tomber dans les fragilités humaines.
Bien sûr.
D'où l'importance de garder ses forces. Mais quand t'es fragile, t'as fait de ton mieux. Ce qui compte, c'est de conserver, d'entretenir tes forces. Et ça, je te rejoins tout à fait. On est tous faillibles. Personne n'est parfait. Ce qui compte, c'est d'essayer de faire de son mieux.
Bien, merci beaucoup, Nathalie. Je pense qu'on a bien vu que la confiance peut avoir de multiples visages. J'espère que ça pourra apporter un petit plus à nos auditeurs au quotidien.
Écoute, c'est ce que je leur souhaite, à tous. Et puis, avant de vous quitter, je vais souhaiter une excellente journée à tous et à bientôt sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Au revoir.
Au revoir Nathalie, et je profite pour te remercier particulièrement aujourd'hui parce que je sais que c'était un sujet très sensible pour toi, qu'effectivement tu traverses une période difficile, et donc la confiance, garde-la Nathalie.
Merci.
Et j'espère que les personnes qui nous écoutent et qui sont elles aussi dans des situations dures à vivre sauront trouver cette confiance en eux-mêmes ou en l'entourage, parce qu'on oublie souvent que même des gens qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, on peut leur faire confiance et ils peuvent être des relais. Donc ça,
L'histoire du bidon d'essence, on peut avoir des belles surprises. Merci.
Voilà. Merci Nathalie.